Bonjour. Aujourd'hui, on va vous lire Sri Aurobindo, un de Nouvelles et Libres, adapté de Risham Chant, édition Europress. Ô Inde, terre de lumière et de connaissances spirituelle, éveille-toi à ta vraie mission dans le monde. Montre le chemin de l'union et de l'harmonie. Alors, le chapitre 18 de ce livre. À 3h30, Mère monta l'escalier en courbe douce qui conduisait au premier étage de la maison appelée Guest House, où vivaient Sri Aurobindo et les premiers disciples. Dès que la mère aperçut Sri Aurobindo, elle le reconnut pour être celui qui, dans son enfance, la guidait intérieurement dans ses visions et qu'elle appelait Krishna. C'était vers lui que, depuis le premier jour, elle allait, et c'était elle que, depuis toujours, il attendait. Et en ce jour-là, dans cet instant profond comme l'infini, il eut la beauté de son visage à elle et la beauté de son visage à lui. Et l'éternité emplit tout l'espace. Alors il y a un nota bene, « Mère me voyait dans les visions de son enfance et me connaissait comme Krishna écrit Sri Aurobindo on one himself », qui précise d'autre part. Elle avait 12 ou 13 ans quand de nombreux instructeurs vinrent à elle tous les soirs et lui enseignèrent diverses disciplines spirituelles. Parmi eux se trouvait un Asiatique au teint sombre. Lors de notre première rencontre, elle reconnut immédiatement en moi l'Asiatique au teint sombre qu'elle voyait autrefois. La veille encore, elle écrivait dans son journal « Il ne me semble à aucun moment vivre hors de toi, et jamais les horizons ne m'ont paru plus vastes, et les profondeurs plus lumineuses et insondables en même temps. » Et le lendemain de la rencontre avec Sri Aurobindo, peu importe qu'il y ait des milliers d'êtres plongé dans une épaisse ignorance, celui que nous avons vu hier est sur terre. Sa présence suffit à prouver qu'un jour viendra où l'ombre sera transformée en lumière et où effectivement ton règne sera instauré sur la terre. Oui, en Sri Aurobindo, elle avait reconnu celui qu'elle connaissait de toute éternité. Il était le Verbe, le pouvoir de nommer. Elle était la force, le pouvoir d'accomplir. Et en réalité, il n'était qu'un seul être. Plus tard, Sri Aurobindo devait écrire ces mots de Sphinx, qui sont l'arcane majeur de son yoga. La conscience de la mère et la mienne sont la même. La conscience divine une en deux. Parce que telle est la nécessité du jeu. Rien ne peut être fait sans sa connaissance et sa force et sa conscience. Sans sa conscience. Tandis que De son côté, mère déclarait « Sans lui, je n'existe pas. Sans moi, il n'est pas manifesté. » Or, à présent, ils étaient réunis pour travailler à leur œuvre commune. Qu'elle dût venir ici et travailler avec moi à un but commun était, pour ainsi dire, un décret divin, dit Sri Aurobindo, pour qui la révolution, peut-on dire, avait été le moyen de se préparer à cette œuvre. Depuis Baroda, il avait invoqué le nom de la mère. Il avait chanté l'amour dévastateur et pur de la mère. Il avait invité à la gloire terrestre de la mère divine. Il avait infusé cet amour de feu dans le cœur de ses compatriotes. Il avait célébré l'hiérophanie de l'Inde. Il avait proclamé le culte de l'Inde pour la révolution. Et cette révolution n'avait été que l'ouverture d'un mouvement universel, la première étape de son yoga, le prélude de l'insurrection de l'homme contre l'ignorance, la souffrance et la mort. Car en mettant le feu à l'âme de l'Inde, il n'avait fait en réalité que préparer l'autel du sacrifice qu'il devait célébrer avec la mère pour arracher l'homme à l'angoisse clair-obscure du mental et l'élever à la splendeur infinie du supramental. Pour elle, la préparation à l'œuvre avait pris un visage plus recueilli, mais tout aussi décisif. Avec un groupe de chercheurs spirituels qui se réunissaient régulièrement chez elle à Paris et que l'on appelait IDEA, elle avait scruté le regard silencieux du futur afin de savoir comment vaincre les ténèbres et conquérir la lumière. Un programme s'était dessiné en 1912 et c'est celui-là même que l'on suit toujours à l'ashram. Le but général à atteindre est l'avènement de l'harmonie universelle progressive. L'un des moyens préconisés était de redire au monde sous une forme nouvelle adaptée à l'état actuel de sa mentalité la parole éternelle. Tâche qui incombait à Sri Aurobindo et devait constituer la synthèse de toutes les connaissances humaines. Tâche qui incombait d'autant plus à Sri Aurobindo qu'elle correspondait exactement au plan qu'il s'était lui-même tracé et qu'il avait exposé dans une des lettres de ses Amolital Roy. Réexpliquer le Sanatana Dharma dans toutes ses parties à l'intellect humain, en partant d'un point de vue différent, ce travail est déjà commencé en trois parties, et trois parties en sont clairement élaborées. Sri Krishna m'a révélé le vrai sens des Védas, et m'a au surplus révélé une nouvelle science de la philologie, qui indique le processus et les origines du langage humain en sorte qu'un nouveau Nirukta, traité de philologie consacré aux étymologies dans la langue védique. Sri Aurobindo, outre le secret des Védas, écrit dans ce sens « The Origin of Aryan Speech », c'est-à-dire le sanskrit, ouvrage qu'il laissa inachevé. Il m'a également révélé le sens de tout ce que dans les Upanishads n'est compris ni par les Indiens, ni par les Européens. Il me faut par conséquent réexpliquer tout le Vedanta. La fin ou la culmination des Védas, c'est-à-dire en particulier les Upanishads. et tout le Véda de manière que l'on voit comment toutes les religions en sont issues et sont partout une seule religion. Il sera prouvé de la sorte que l'Inde est le centre de vie religieuse du monde et qu'elle est le sauveur désigné grâce au Sanatana Dharma. Sur les bases de la connaissance védique, établir une sadhana yogique qui non seulement libérera l'âme, mais préparera une humanité parfaite et aidera à la restauration du Satya Yuga. L'âge d'or et de vérité. Ce travail doit commencer à présent, mais il ne s'achèvera qu'avec la fin du Kali Yuga. L'Inde étant le centre, œuvrer à la rétablir à sa juste place dans le monde. Mais cette restauration doit s'effectuer comme une partie du travail exposé plus haut et par des moyens yogiques appliqués aux moyens et instruments humains, pas autrement. Quatrièmement, une humanité parfaite étant le but, la société devra être remodelée afin d'être à même de contenir cette perfection. Ce dernier point correspond à l'idée de la mère de fonder la société idéale dans un lieu propice à l'éclosion de la race nouvelle, celle des fils de Dieu. Pour concourir à l'avènement de l'harmonie universelle progressive, c'est-à-dire de ce que Sri Aurobindo appela par la suite le supramental. Dès les premières rencontres avec Sri Aurobindo, il fut donc décidé le 1er juin de créer une revue afin de mettre en action ce programme commun de Sri Aurobindo et de la mère. Ce fut l'Arya, dont le premier numéro parut le 15 août 1914, jour anniversaire des 42 ans de Sri Aurobindo. Image de puissance immesurable, selon l'expression d'Amrita, la mère se chargea de tout l'aspect matériel, abonnement, comptabilité, édition, traduction. La revue paraissant également en français sous le titre de la revue de la grande synthèse philosophique. Revue cependant que Sri Aurobindo, avec une puissance aussi immesurable, se lançait dans la rédaction simultanée de trois de ses œuvres les plus essentielles, et chacune en un style différent, bien que toutes les trois dans une unique coulée de lyrisme et de majesté intérieure. Le premier livre fut « La vie divine », ensuite « Le secret des Védas » et « La synthèse des yogas » qui constituent, pour ainsi dire, le triple et unique vision de la destinée humaine, de la naissance du langage et des mythes et du chemin qui relie cette mystérieuse origine à l'énigme de ce but. Le titre même de la revue était en soi un programme Arya. Le mot arien a par la suite été trop mal compris et utilisé en Occident pour que nous ne reproduisions pas ici la réponse qu'en philologue et en maître spirituel Sri Aurobindo donna à un lecteur désireux de savoir le sens du nom Arya. Les Indiens connaissent ce mot, mais il a perdu pour eux l'importance qu'il revêtait par leurs ancêtres. La philologie occidentale en a fait un terme ethnologique lié à une race mal définie dont varie la valeur suivant les hypothèses. Il en est maintenant qui même parmi les philologues commence à reconnaître que ce terme en son emploi originel exprimait non une différence de race, mais une différence de culture. Dans le Veda, en effet, les peuples aryens sont ceux-là qui avaient accepté un mode particulier de culture de soi, d'entraînement intérieur et extérieur, d'idéalité, d'aspiration. Les dieux aryens étaient les puissances supraphysiques, et dans les mortels, dans leur lutte pour acquérir la nature de la divinité. Ce mot « Arya » résumait à lui seul les plus hautes aspirations de la race humaine à son début, son plus noble tempérament religieux et les tendances les plus idéalistes de sa pensée. Plus tard, le mot « Arya » expliqua un idéal éthique et social particulier, un idéal de vie bien conduite, de sincérité, de courtoisie, de noblesse, de loyauté, de courage, de bienveillance, de pureté, d'humanité, de compassion, de protection des faibles, de générosité, d'observance du devoir social, la soif de connaissance, le respect pour les sages et les savants et les réalisations sociales. C'était l'idéal à la fois du Brahman et du Kshatriya. Brahman et Kshatriya, la caste sacerdotale et la caste militaire. Tout ce qui s'écartait de cet idéal, tout ce qui tendait à être vil, mesquin, obscur, grossier, cruel ou faux était qualifié de non-arien. Aucun mot du langage humain n'a de plus noble histoire. Au premier temps de la philologie comparée, lorsque les érudits cherchèrent dans l'histoire des mots, l'histoire préhistorique des peuples, on crut que le mot Arya dérivait de la racine ar, labouré, et que les Aryens védiques furent ainsi nommés quand ils se séparèrent de leurs parents du nord-ouest qui méprisaient les travaux d'agriculture et demeurèrent bergers ou chasseurs. Cette hypothèse ingénieure n'a guère au même point de base, mais en un sens nous pouvons accepter la dérivation. Quiconque cultive le champ de l'esprit suprême a fait pour lui sa terre de plénitude intérieure et extérieure. Quiconque ne se laisse pas sans produire ni ne permet que livrer l'étouffe, mais travaille pour en tirer tout ce qu'il peut donner. Celui-là, par cet effort même, est un Aryen. Si Aryen n'est qu'un terme de race, une étymologie plus vraisemblable serait ar, force ou vaillance, qui va de ar, combat, ou d'Arès, le nom du dieu grec de la guerre, et peut-être même arios, vertu, qui est d'abord, comme le latin virtus, le sens de la force et du courage physique, puis de force d'élévation morale. Nous pouvons accepter aussi ce sens pour Aria. Nous combattons pour acquérir la sagesse sublime. C'est pour ça que les hommes nous appellent guerriers. Intrinsèquement, dans son sens le plus fondamental, Aria veut dire effort, ascension, triomphe. L'Arien est celui qui combat et triomphe de tout ce qui en lui et hors de lui fait obstacle au progrès humain. La conquête de soi est la première loi de sa nature. Il triomphe de la matière et du corps et n'accepte pas, comme le fait l'homme ordinaire, leur pesante lenteur, leur inertie, leur routine mortelle et leur limitation tamasique. Il triomphe de la vie et des énergies vitales et refuse d'être dominé par leur faim et leur flingale, ou asservi par leur passion rajasique. Il triomphe du mental et de ses habitudes. Il ne vit pas dans une coquille d'ignorance, de préjugés héréditaires, d'idées communes, d'opinions agréables, mais c'est comment chercher et choisir, comment être d'une intelligence large et souple, tout en ayant une volonté ferme et forte. Car en toute chose, il recherche la vérité, en toute chose, la justice, en toute chose, la grandeur et la liberté. Pour lui, le but de sa conquête de soi est sa propre perfection. Il ne détruit donc pas ce qu'il conquiert, mais l'ennoblit et le complète. Il sait que le corps, la vie et le mental lui sont donnés afin qu'ils parviennent à quelque chose qui leur soit supérieur. Ceux-ci doivent être dépassés et surmontés, leurs limitations repoussées et l'assouvissement de leurs plaisirs rejetés. Mais il sait également que le Très-Haut n'est pas une nullité dans le monde, mais qu'il s'y exprime de plus en plus, que c'est une volonté, une conscience, une béatitude divine, un amour divin, se déversant dans les termes de la vie inférieure sur celui qui le trouve et alentour sur tout ce qui est capable de le recevoir. C'est cela qu'il cherche. Il en est le serviteur et l'amant. Quand il l'a atteint, il le répand sur l'humanité sous forme d'activité, d'amour, de joie et de connaissance. L'Arien, en fait, est toujours un travailleur et un guerrier. Il ne s'épargne aucun labeur mental ou corporel, soit qu'il cherche le Très-Haut, soit qu'il le serve. Il n'esquive aucune difficulté, ni ne cède à la fatigue. Il combat sans cesse pour l'avènement de ce royaume en lui-même et dans le monde. L'Arien parfait et l'Arate. L'Arat veut dire grand être. Il existe une conscience transcendante qui surpasse l'univers et dont tous ces mondes ne sont qu'un sujet accessoires ne sont qu'un jeu de scène. C'est à cette connaissance qu'aspire et parvient l'arhate. Il y a une conscience qui, tout en étant transcendante, et cependant l'univers et tout ce que l'univers contient. L'arhate élargit son ego limité en pénétrant dans cette conscience. Il devient un avec tous les êtres et tous les objets inanimés en une connaissance de soi unique, un seul amour, une même béatitude, une énergie qui embrasse tout. Il y a une conscience qui, tout en étant transcendante et universelle, admet cependant les limitations apparentes de l'individualité pour l'œuvre, pour chacun des points de vue de la connaissance, pour le jeu du Seigneur avec ses créatures, car l'ego n'est là que pour pouvoir finalement se convertir en un centre libre de l'œuvre divine et du jeu divin. L'arhate a suffisamment d'amour, de joie et de connaissance pour accepter aussi cette conscience. Il est assez puissant pour effectuer cette conversion. Embrasser l'individualité après l'avoir transcendé, c'est là l'ultime et le divin sacrifice. Le parfait arhate est celui qui peut vivre simultanément dans ces trois états d'être apparents, élever l'inférieur jusqu'au supérieur et recevoir le supérieur dans l'inférieur, afin de pouvoir représenter parfaitement dans les symboles du monde ce avec quoi il s'identifie en toutes les parties de son être, le Brahman, la réalité suprême, triple et un. L'intensité, dès lors, avec laquelle spirituellement et physiquement Sri Aurobindo, l'ancien chef révolutionnaire et la mère se dévouèrent à la tâche, ne peut être exprimée avec des mots. Le résultat en fut une œuvre immense et magistrale, le diagramme illuminé de l'histoire humaine et de l'avènement du surhomme. Et cependant, d'un ton moqueur, Sri Aurobindo confia un jour à un de ses disciples: « Laissez-moi vous dire, sous le sceau du secret, que je n'ai jamais, jamais, jamais été un philosophe, bien que j'ai écrit de la philosophie, ce qui est une toute autre histoire. Avant de faire le yoga et de venir à Pondichéry, je ne connaissais pas grand-chose à la philosophie. J'étais poète et politicien, pas philosophe. J'avais pour théorie qu'un yogi doit pouvoir s'atteler à n'importe quoi. Je n'avais qu'à transcrire en langage intellectuel tout ce que je n'avais observé, tout ce que j'avais pu découvrir en pratiquant journellement le yoga, et la philosophie s'y trouvait automatiquement. Mais ce n'est pas être philosophe. Il est vrai qu'à la différence des autres philosophes, Sri Aurobindo ne remplissait pas les pages d'abstraction obscure et d'argus si pesante, mais de paroles de feu et d'évidence solaire. Alors, je vais terminer par la fin. La première fois que Sri Aurobindo se trouva à décrire ses qualités, il dit n'avoir jamais rencontré nulle part une soumission aussi absolue et inconditionnelle de mère. Il avait ajouté en commentaire que seules peut-être les femmes étaient capables de se donner aussi entièrement et avec une aussi souveraine facilité. Cela implique un complet effacement, du passé que l'on gomme, ainsi que ses vertus et ses défauts. Lorsqu'elle est venue ici, elle s'est simplement abandonnée au Seigneur Sri Aurobindo avec la candide simplicité d'un enfant, après avoir fait table rase de tout son passé, de tous ses accomplissements spirituels, toutes les richesses de sa conscience. Tel un enfant nouveau-né, elle a senti qu'elle ne possédait rien, qu'elle devait tout apprendre depuis le début comme si elle n'avait rien su, ni entendu parler de rien. Mais voici que la mère devait bientôt quitter Pondichéry. Elle avait rempli sa première mission surhumaine. À présent, il fallait partir le 21 février 1915, on fêta ses 37 ans, puis elle s'en alla. Dans ce formidable désarroi, dit-elle, cette terrible destruction, on peut voir la grande œuvre de labeur nécessaire préparant la terre pour une semence nouvelle. Celle qui se lèvera en épi merveilleux et donnera au monde la splendide moisson de la nouvelle race. Alors je termine ce chapitre 18. Et je continuerai la semaine prochaine le chapitre 19 de Sri Aurobindo, Inde nouvelle et libre. Je remercie profondément Sri Aurobindo pour cette lecture, particulièrement concernant l'aria et l'arien. Merci Sri Aurobindo, merci Mère, Ganga Lakshmi.